femmes et des hommes ensemble en retraite, ça ne se voyait pas. Renouveau de la spiritualité conjugale, création de communautés nouvelles, personnes qui se préparent avec soin à leur baptême, à leur mariage, au baptême de leurs enfants, nouvelle méthode d'évangélisation, création de nouveaux séminaires. Il y a des signes de renouveau. Et c'est vrai qu'il faut savoir apprécier les signes des temps. Comme disait l'autre, un arbre qui tombe, ça fait beaucoup de bruit. Une forêt qui pousse dans le silence, ça ne se remarque pas. Mais j'ai envie d'arriver tout de suite à la troisième façon d'espérer quand on est chrétien. Elle est fondée non pas sur des considérations purement sociologiques ou historiques, mais sur la foi. L'espérance, c'est la deuxième vertu théologale. Elle suppose la première, qui est la foi. Or, le gros problème d'aujourd'hui, c'est que dans notre Occident chrétien, beaucoup de chrétiens, même du dimanche, n'osent plus croire à deux vérités fondamentales que je vais vous rappeler avec joie ce matin et sans lesquelles vous ne pouvez pas conserver l'espérance en toutes circonstances. La première vérité, elle est déjà affirmée dans l'Ancien Testament, la première alliance. Et la deuxième vérité, c'est une spécificité de notre foi chrétienne. C'est le mystère de la croix. Premier mystère, il est étonnant, tellement étonnant qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'osent plus l'affirmer avec autant de force, à savoir que tout est grâce, dirait la petite Thérèse. Je prêchais une retraite la semaine qui vient de s'écouler, et un monsieur m'a remis ce petit papier qui résume magnifiquement cette foi chrétienne. « Seigneur, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Si chacun d'entre vous y croyait, nous serions une assemblée chrétienne extraordinaire. Nous croirions à ce grand mystère de la providence. Que tout ce qui nous arrive, c'est réglé par un Jésus Pantocrator qui domine notre assemblée et qui tient en main le monde entier. Vous connaissez cette petite statue de l'enfant Jésus de Prague qui bénit de la main droite et qui tient dans sa main gauche le globe du cosmos pour montrer que c'est lui qui mène le monde. Il est le maître des temps et de l'histoire. Le cardinal Schönborn, qui a eu la gentillesse de préfacer mon bouquin sur les paradoxes, dit dans la préface « Le père d'Escouvement se dit prêt à payer immédiatement 20 000 euros, à part Elmonial, je dis 40 000, à celui qui trouverait un saint contestant le mystère de la Providence. Il n'a jamais eu à les payer, et il est sûr, d'ailleurs moi je ne parie que lorsque je suis sûr de gagner, bien sûr, non. Il n'aura jamais à les payer, car on ne trouve pas de saint contestant ce grand mystère. Même si dans l'Église d'aujourd'hui, il est extrêmement contesté. C'est un grand mystère, pourquoi ? Parce que vous êtes obligés, si vous croyez, avec tous les saints, fameuse prière du père de Foucault, que vous avez chantée tout à l'heure, d'une certaine façon, « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. » C'est cette fameuse prière du père de Foucault que vous lisez sans doute régulièrement. Seulement, autre chose est de la lire, autre chose y de croire. Nota bene préalable. Ce que je dis, c'est un peu de théologie. C'est pas de la pastorale. C'est évident que si je suis aumônier d'hôpital et que je rencontre Monseigneur Renaudin, ancien évêque de Pontoise, qui est mort d'un cancer du pancréas, et qui m'apprend qu'il a le cancer et qu'il ne va pas s'en remettre, même si c'est un évêque, je ne vais pas lui dire « Mon père, vous avez le cancer, c'est la volonté de Dieu, chantons tout de suite le Magnificat !» Il faudrait complètement être dingue. En pastoral, on accompagne les gens, même les chrétiens, a fortiori les malcroyants. Mais il est quand même bon de temps en temps, c'est le rôle d'un enseignement, de nous rappeler la foi chrétienne plénière. Donc, nous croyons, depuis 20 siècles, et les musulmans y croient encore d'ailleurs, c'est autre chose. Nous croyons que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet dans son extraordinaire sagesse. Alors pourquoi c'est mystérieux? Mais vous le sentez. Parce qu'il y a des choses qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu, qui sont des injustices. Et les saints acceptent cela avec sérénité, parce qu'ils pensent que si Dieu a permis cette injustice, il a ses raisons. Monsieur Vincent, Saint Vincent de Paul, voilà quelqu'un qui n'était pas un résigné devant la misère du monde. Il perd un procès. On lui avait donné en rente viagère une ferme au sud-ouest de Paris, près de Saclay. Magouille, on prétend qu'il n'a pas reçu légitimement cette propriété. Et le tribunal ne l'autorise même pas à être remboursé des frais qu'il avait engagés dans cette ferme pour y installer les prêtres de la mission. Quelle est la réaction de M. Vincent quand on lui apprend le verdict du tribunal? Dieu soit loué. Je suppose que si le verdict avait été contraire, il aurait chanté encore plus « Dieu soit loué ». Mais il ne supporte pas que ses amis le plaignent. Mes amis, c'est la sainte volonté de Dieu. Et il en profite pour faire toute une instruction aux filles de la charité sur le mystère de la Providence. Le Padre Pio reçoit un jour la visite du fameux professeur italien Gemelli, ce grand chrétien qui a donné son nom à la clinique où Jean-Paul II a été si souvent opéré. Le professeur Gemelli demande à regarder les stigmates du Padre Pio. Vous ne verrez pas mes stigmates? Le bon Dieu ne m'a pas demandé de vous les montrer. Le professeur Gemelli en déduit que le Padre Pio est un imposteur, fait son rapport au Vatican. Le Vatican croit le témoignage de ce grand chrétien, et du coup le Padre Pio a été interdit de confesser pendant des années. Quelle injustice, quelle bêtise! Mais le Padre Pio était un saint, et il a reconnu la sainte volonté de Dieu à travers cette injustice du Vatican. S'il avait fait le contraire, on n'aurait même pas lancé un procès de canonisation pour le Padre Pio. Quand Jean-Paul II l'a béatifié, il n'a fait aucune allusion à ses stigmates, mais uniquement à sa foi. Un saint, c'est quelqu'un qui croit, malgré les apparences. Parce que c'est évident que ce n'est pas évident. Quand vous me dites « c'est pas évident », ce que vous me dites, mais c'est normal, c'est évident que ce n'est pas évident. Vous savez qu'on pourrait terminer toutes les homélies en disant « incroyable, mais vrai ». Mais on me prendrait pour Jacques Martin, alors je ne le fais pas. Non. C'est incroyable. Et d'autre part, ce sont des choses qui sont, ce sont souvent des événements qui sont dus à la méchanceté des hommes et non pas à la volonté de Dieu. C'est dû à la liberté des hommes, mais les saints y reconnaissent la volonté de Dieu. Et par-dessus tout, Jésus. La passion de Jésus, elle a été fomentée, vous le savez, par le prince des ténèbres et la méchanceté des hommes. Ce n'est pas le Père qui a voulu que son fils soit torturé sur une croix, bien sûr. Et vous avez des catéchistes qui se contentent de dire cela aujourd'hui. Vous savez, mes enfants, ce n'est pas le bon Dieu qui a voulu la mort de son fils. Madame, on aurait pu s'en douter, parce que si le bon Dieu est bon, il ne peut pas vouloir des choses pareilles. Mais si vous voulez enseigner le vrai catéchisme, il faut ajouter ce que Jésus lui-même a dit à Gethsémani, « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Jésus a vu la volonté du Père à travers la méchanceté des hommes. C'est quand même le béaba de notre foi, mes chers amis. Et c'est la première catéchèse de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Et allez voir les actes des apôtres, c'est la toute première homélie de saint Pierre le jour de la Pentecôte. Ce Jésus, dit-il aux gens de Jérusalem, vous l'avez tué, suivant un plan éternel de Dieu. Oh, comme je vous souhaite de retrouver